Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi podcast season 3.
Saison 3 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'une partie de l'équipe lauréate Europe 16 sur le site de Grenoble avec le projet Labo Rabot. Bonjour Alice Rigert et Marguerite Charles et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes de jeunes paysagistes. Votre équipe pour le projet était composée de 5 paysagistes et une architecte.
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors, je la cite, Gaspard Béguet, Alice Rigert, vous, Florian Bonny, Marguerite Charles, Maxime Bardou et Cynthia Bonnefille, l'architecte.
C'est ça.
C'est ça. Alors, bien sûr, nous allons évoquer ce projet européen, mais il est d'usage, donc comme d'archi, d'interroger... le désir par rapport à votre discipline et votre relation intime avec cette discipline qui est le paysage. Alors ici, on parle beaucoup d'architecture, mais on aime bien faire des pas de côté, surtout avec le paysage, parce que de plus en plus, la dimension du paysage maintenant est intégrée dans l'architecture. Alors, je vous propose de commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs, vos jeunesses, où s'est ancrée votre envie de paysage et quelles ont été vos études? On commence par... Alors, Marguerite.
Oui. Alors, moi, en fait, j'ai une formation littéraire au départ, en fait. Je viens de Paris et puis j'ai visité l'école de Versailles de paysage quand j'étais en terminale. Je faisais un bac littéraire et puis on m'a dit qu'il fallait un bac plus 2 pour rentrer à Versailles. Donc du coup, j'ai décidé de faire une prépa littéraire pendant 2 ans, en me formant à côté de ça aussi au théâtre. Et puis ensuite, j'ai tenté le concours, je ne l'ai pas eu. Je me suis préparée encore pendant 1 an et puis je suis ensuite rentrée à l'école de Blois en paysage. Avec l'envie d'en savoir beaucoup sur les plantes, de dessiner de l'espace public et donc de participer à une formation de 5 ans, qui est une longue formation quand même.
Avec de la botanique.
C'est ça, ouais. Mmh. Un lien avec l'écologie, l'hydrologie aussi, donc une formation assez complète. Et voilà.
C'était... Et peut-être qu'aujourd'hui, vous dites, j'ai bien fait de faire cette école à Blois plutôt qu'à Versailles? Non, peut-être pas.
C'était un contexte assez particulier. Moi, j'avais vraiment envie de quitter Paris. On était en 2015. Le contexte était déjà très tendu à cette époque-là. Et puis, donc, partir dans une ville moyenne, ça m'intéressait de comprendre un autre rythme, d'être dans un cocon, dans une espèce de famille. C'est ce que j'ai trouvé là-bas à Blois.
Ouais. Ouais. Alice?
Oui, de mon côté, j'ai une formation... un parcours, on va dire, un peu plus classique dans le domaine du paysage, c'est-à-dire que je suis issue d'une formation à la base scientifique, on va dire au lycée, pour après faire le BTS aménagement paysager, on dit ça agricole. On est souvent en école de paysage, on a une bonne partie de chacune des promotions qui vient de ce BTS, qui donne des bases plutôt techniques, pratiques aussi du métier où on va... avoir déjà dès ce moment-là des cours de botanique, scientifiques, mais aussi au niveau du terrain où on va travailler en entreprise de paysage et avoir davantage de contacts avec peut-être la matière, la construction. Ensuite, après ces 2 années de BTS, j'ai souhaité intégrer l'école de Blois. Donc par choix, je suis issue du milieu rural, j'ai grandi dans un petit village de 200 habitants et c'est vrai que... en Bourgogne. En Côte d'Or plus exactement. Et c'est vrai que le cadre, le contexte blésois, en quelque sorte, à des qualités, je pense que... qui ont été très riches d'enseignements et qui est finalement la seule école dans une ville moyenne, en paysage.
Ouais. Du coup, ça donne au niveau, espace-territoire, une bonne formation.
Oui, complètement. Et puis après, dans la formation, ce travail de jeu d'échelle et de découverte de réaménagement de l'échelle, pas vraiment du jardin, mais déjà peut-être de la petite placette publique, pour aller au quartier, ensuite au grand territoire, c'est quelque chose qui est très fort dans la formation, surtout à Blois, où chaque année, donc durant les 5 années, on va un peu d'une échelle à l'autre et on apprend à élargir davantage toujours nos réflexions.
Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu des profils de vos coéquipiers ?
Oui, alors en fait, on est une équipe, on est donc majoritairement paysagistes. Du coup, les 5 paysagistes viennent de la même école. En fait, on était la même promotion. On vient de parties de la France assez différentes. Il y a quelqu'un qui vient de Toulon, Florian vient de Toulon, Gaspard vient de Lyon, Maxime vient plutôt de Lozère. Et puis, Cynthia nous a rejoint dans ce projet-là. Et elle vient plutôt de...
Bah, elle vient de Lozère aussi.
De Lozère aussi. Et du coup, c'est assez beau parce qu'on voilà, on a des cultures paysagères et urbaines très, très différentes, en fait.
Puis aussi, à la base, on était des copains de promo et maintenant, on a chacun un peu pris un chemin professionnel différent. Depuis maintenant presque 2 ans, ça fait 1 an et demi que nous sommes sortis de l'école.
Alors justement, j'allais y venir. Comment vous avez commencé vos activités de paysage?
Nous, c'était toujours dans un contexte aussi très particulier. Ce sera important d'en parler, mais on a passé notre diplôme en 2020 dans un contexte sanitaire très compliqué. Une partie de notre diplôme s'est déroulée pendant le premier confinement.
Enfermé.
Donc,
durant une période justement où normalement on est tous censés travailler en équipe, se soutenir, s'apporter mutuellement sur une phase de projet en fait, qu'on fait individuellement. Donc ça a été assez compliqué de
gérer. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans les écoles de paysage, on travaille en charrette, un peu comme on le faisait en archi, où les copains viennent charretter avec vous sur vos projets de diplôme, c'est ça ?
Oui, ça c'est, on est sur une culture commune là-dessus.
Oui, d'accord.
Mais
ça soit clair pour nos auditeurs.
Oui. Ouais. On a une manière, je pense... Enfin, l'apprentissage, l'enseignement en école de paysage, de toute façon, est quand même très proche aussi du domaine de l'architecture en termes de rythme de travail, de cette alimentation, toujours avec les autres, les échanges très importants. Et c'est vrai que du coup, pour cette dernière année d'études, on n'a pas vraiment pu être dans cette dynamique-là.
Oui, et puis comment projeter du paysage alors qu'on est enfermé ?
C'est ça.
Mais quelque part, est-ce que ça a impacté vos projets de diplôme, vous pensez, ou pas ?
Moi, je ne sais pas. J'étais dans un contexte, j'étais à Paris avec ma famille. Il y a eu une espèce d'urgence à travailler rapidement et puis à trouver des sources d'inspiration effectivement autres. Et puis, en tant que paysagiste, l'approche du terrain, elle est vraiment très importante. Et donc, le fait de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir toucher le paysage qu'on va traiter, c'était très, très compliqué, quoi. Donc, c'est sûr que ça a impacté. Après...
Il y a aussi la question du terrain pour l'espace, mais aussi pour les rencontres. C'est aussi valable dans le domaine de l'architecture, dans l'urbanisme. De plus en plus, on a ce travail avec les usagers, les habitants, les acteurs qu'on pourrait rencontrer directement sur le site et qui viennent alimenter nos réflexions. Et dans ce contexte, effectivement, on a eu moins d'opportunités. Et ça a sûrement impacté le travail. Mais après, il y a aussi d'autres manières d'aborder le diplôme, peut-être sous une forme plus théorique finalement, mais qui n'est pas négligée aussi.
Et puis, j'imagine que vos professeurs étaient aussi impactés, en empathie.
On s'est adapté et c'est aussi, dans ce contexte très incertain, de toute façon, cette manière de faire, de devoir s'adapter et puis de rebondir et d'apporter un peu plus de flexibilité dans notre travail et dans les projections, dans la réflexion.
Et c'est un peu comme ça qu'on a ensuite abordé... disons, le marché du travail. C'est-à-dire qu'on était aussi dans une dynamique très urgente, en fait. Enfin, on est sortis de l'école en septembre. Et puis, tout de suite, en fait, moi, j'ai senti vraiment cette énergie de groupe où tout le monde s'est dit, bon, il faut absolument trouver du travail maintenant parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer pour la suite. Et donc, on a été arrêtés rapidement dans des agences, tous. Hein, enfin, oui. C'était vraiment une dynamique de promotion. Mmh. Et bon, du coup, ça a ses avantages et ses inconvénients. On a tous trouvé du travail.
Ça, c'est bien.
Oui.
En fait, je crois que c'était aussi doublé par une énergie, une envie commune, enfin, tous, de tenir et de ne pas se laisser...
Il y avait cette dynamique-là et aussi le contexte sanitaire plus global, où tout de suite, beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'il y avait ce besoin d'avoir accès à des espaces de nature, de proximité, de davantage passer de temps, l'importance des espaces extérieurs, des espaces publics, quand on se retrouve confiné dans des petits espaces, dans des logements où on peut parfois être avec des familles nombreuses, etc. Mmh. Et c'est vrai que ce contexte-là, je pense qu'on le ressent dans les projets et dans le travail à l'agence, c'est qu'il y a de la demande aussi pour davantage intégrer des paysagistes, même dans des projets... dans des projets urbains, des projets d'urbanisme, et qui c'est tout ce contexte finalement qui a aussi alimenté cette dynamique, en plus d'une volonté, peu tous ensemble de rebondir.
Alors, donc maintenant vous êtes tous dans des agences,
ouais.
De paysage, d'architecture.
Alors, on est 4 à être en agence de paysage. Florian travaille chez Après la pluie, donc Marguerite.
Je travaille chez Nebia, Paysage et Territoire. Maxime travaille dans l'agence Follet à Gauthier.
Et puis Gaspard et Cynthia travaillent tous les deux à l'agence Concorde à Marseille. Donc en fait, on a une équipe qui est répartie entre 4 personnes sur Paris et 2 autres personnes sur Marseille.
Et toi, t'es chez TN+.
Oui, c'est ça. TN+, paysage et urbanisme, donc à Paris aussi.
D'accord. Comment l'architecte a vécu ce rapport un peu inversé, en fait, dans la fabrique de votre projet Europan? Est-ce qu'elle était complètement intégrée de fait? Ou est-ce qu'il a fallu qu'elle bataille un petit peu pour faire face aux 5 paysagistes de l'équipe? Vous en avez parlé, peut-être, ou pas?
Effectivement, c'était assez intéressant, en fait, parce que je pense que Cynthia, c'est quelqu'un qui avait justement envie de tendre vers le paysage. Il y avait une vraie sensibilité à ça. Après, je pense que nous, en tant que paysagistes, on s'est beaucoup référé à elle. Je pense que ça a été beaucoup de pression pour elle aussi, parce qu'à chaque fois qu'on avait une question très urbaine et très construite, structurelle, on se retournait forcément vers elle. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que ça n'a pas été facile. Après, je pense qu'on a... On a travaillé ensemble et j'ai trouvé que son regard était vraiment précieux. Et surtout, elle a une approche en fait très douce en fait et pas du tout dans la confrontation. Et je pense que c'est pour ça que ça a bien fonctionné dans l'équipe en fait.
Alors, est-ce que vous pouvez décrire votre projet? Le présenter?
Oui, le projet Europan est sur un site à Grenoble. Le site de la Bastille, enfin, plus précisément le site du Rabot, qui est juste en dessous de la Bastille, qui est en fait sur la partie de la Chartreuse et qui est un espace, on peut dire, ni vraiment urbain, ni vraiment de montagne, parce qu'on est quand même sur un relief assez accidenté, mais qui est en fait un peu la transition entre la plaine grenobloise et le début du massif montagneux de la Chartreuse. Et nous, on a été très inspirés par le contexte particulier de Grenoble, qui est justement, on appelle souvent la cuvette, puisque c'est ce contexte montagneux qui fait qu'on va avoir une ville qui va connaître des périodes de chaleur de plus en plus intenses. On a un chiffre sur lequel on s'est beaucoup basé dans notre travail, c'est qu'aujourd'hui, on compte à peu près 3 jours de canicule par an à Grenoble. D'ici 2050, on peut tendre entre 40 et 45 jours par an. Donc on a une urgence climatique qui est forte de manière globale, mais qui va être d'autant plus intense sur Grenoble.
Et en fait, nous, on connaissait assez peu le terrain, en fait, finalement. Et ce qui nous a attirés, en fait, c'était le contexte historique du Rabot. C'est une ancienne base militaire, mais auparavant, il y avait une culture de vignobles. Et aujourd'hui, c'est le site sur lequel on s'est inscrit. Ce sont des bâtiments qui appartiennent au Crous. Donc, c'est une résidence étudiante qui va bientôt se déplacer ailleurs. Et donc, en fait, on s'est rendu compte, en se renseignant, en allant sur place, que c'était un site, en fait, qui avait souvent été utilisé par la ville, en fait, pour répondre à des problématiques précises. Donc, des problématiques donc vivrières, au départ, et puis ensuite, des problématiques de surveillance, parce que c'est un point haut, puisque Grenoble est quand même un point stratégique en France aussi, à la frontière suisse, italienne... Et puis ensuite, c'est devenu une réserve d'espace pour les étudiants qui ont développé là-bas un mode de vie très particulier, parce qu'à la fois très proche de la ville et en même temps comme dans un écrin, en fait, dans la montagne. Aujourd'hui, c'est un site qui est assez particulier parce qu'on est entouré par la végétation, la roche, donc il y a un paysage vraiment très significatif, et en même temps, des problématiques très, très urbaines, de sol imperméable, de forte chaleur en été... Et puis, d'une fréquentation et d'une vie sociale quand même très présente. Enfin, y a une identification des étudiants là-bas qui est plutôt forte.
C'est ça. Donc, du coup, l'idée, c'était de s'inspirer des composantes du Rabot, de l'existant, de la végétation en place, du type de sol très imperméabilisé, ou bien même la roche naturelle, calcaire, affleurante. Et aussi, au niveau de la problématique bâtie, on se retrouve, le Crous bientôt va déménager et on va se retrouver avec une problématique de bâtiments vacants, donc qui sont aussi des caractéristiques qu'on peut retrouver bien sûr et toujours en milieu urbain. Et on s'est dit que justement on avait cette complémentarité et ces similarités même entre le site du Rabot et des contextes urbains. Et de ce principe,
on s'est beaucoup inspiré en fait de la culture grenobloise, en fait, donc à la fois une culture montagnarde, alpine, et puis en même temps cette volonté qu'a Grenoble depuis l'après-guerre de se développer et de créer des pôles scientifiques et d'expérimentation. Et donc c'est un peu le socle de notre projet, en fait, de travailler à la création d'un laboratoire climatique pour observer le milieu particulier qu'est le Rabot et en même temps s'intéresser aux problématiques climatiques que vont subir le Rabot et puis à côté de ça, toute la région et puis dans une moindre mesure le contexte plus global de la France, quoi. Donc on a travaillé à dessiner un laboratoire climatique qui aurait pour but de créer un espace en mutation, qui ne soit pas un espace figé, qui soit un espace en mouvement et qui soit créé avec, et développé avec différents acteurs qui sont déjà sur site et de certaines personnes qui vont être amenées à déambuler dans les environs.
En fait, l'idée, c'est de se dire que le Rabot, de par son contexte particulier, finalement, va anticiper les conditions extrêmes qu'on va pouvoir retrouver en milieu urbain. On est sur un flanc de montagne qui donne plein sud. On l'évoquait avant, des sols très imperméabilisés. Un contexte grenoblois avec aussi des fortes chaleurs. Donc, tous ces éléments-là, en fait, on s'est dit, ça, c'est vraiment un endroit en fait, où on pourra... Enfin, peut-être que finalement, la plaine grenobloise dans 30, 50 ans, ce sera... Ça pourrait être les conditions du Rabot. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, ça va être un site qui va permettre d'anticiper un petit peu ce changement à venir sur la ville et un site qui va nous permettre d'expérimenter des solutions en faveur de cette adaptation au changement climatique. Donc de venir tester des nouvelles installations, mais surtout de tester une nouvelle végétation qu'on va pouvoir venir implanter, développer, déployer en ville. Aujourd'hui, la végétation en place sur le site du Rabot et plus globalement sur la Bastille, c'est une végétation de type méditerranéenne, adaptée à des conditions de fait assez extrêmes. Oui. Et en fait, on a tout ce matériel
disponible
et avec lequel on avait envie de travailler, d'essayer d'avoir quelles essences pouvaient davantage tenir dans ces conditions extrêmes. qui vont se retrouver en milieu urbain et ainsi avoir tout ce panel déjà sous la forme d'une pépinière, venir tester ces différentes essences pour ensuite venir alimenter la plaine grenobloise en végétation adaptée.
Et avec un travail sur les ombres ?
Oui, c'est ça. L'idée, c'était d'avoir, en fonction de la pente du sol, en fonction de l'épaisseur de substrat disponible, de l'exposition, de l'orientation par rapport au bâtiment, de même voir l'évapotranspiration des arbres. Donc, quelles essences pourraient être les plus idéales pour lutter notamment contre le phénomène d'îlots de chaleur urbain, voire avec le feuillage, qu'est l'ombre qui est la plus généreuse, etc.
Et puis l'idée, voilà, c'était vraiment de travailler sur un processus et de faire que les espaces publics sur lesquels on travaille, donc la pépinière par exemple, soient un lieu agréable dès maintenant en fait. Que ce soit une démarche et qu'on travaille pour l'amélioration, mais que cette amélioration-là, elle soit vivable tout de suite aussi.
Donc ça veut dire que ce lieu-là est structuré, mais il intègre un ADN d'évolution. C'est ça, en fait. Et vous avez travaillé un peu sur les couleurs, dans les essences, ou pas du tout ? Est-ce qu'entre un paysage à la Versaillaise et ces essences très naturelles et adaptées au climat, il y a quand même un monde. Mais bon, Versailles, on structure, on taille, on met de la couleur. Est-ce qu'il y a un tout petit peu de ça dans votre projet ou pas du tout ?
Ouais. L'idée, on a surtout essayé de mélanger aussi les essences entre elles et aussi les strates de végétation. Parce qu'on parle par exemple des jardins à la Versaillaise ou même des espaces de parcs aussi en ville où on va beaucoup avoir souvent une strate arborée, des grands sujets, des arbres très grands et une pelouse assez rase, bien entretenue. Donc finalement que deux strates. Nous, l'idée aussi, c'était de tester les essences de manière individuelle, mais aussi de les mélanger entre elles, de voir s'il pouvait y avoir des phénomènes peut-être de symbiose ou d'entraide entre les essences, enfin avoir des cortèges de végétaux qui fonctionnent entre eux, pour aussi venir davantage végétaliser la ville, mais aussi davantage diversifier les strates de végétation en ville, ce qui est notamment indispensable aussi pour le développement de la biodiversité.
Et ce lieu est ouvert au public ?
Oui, c'est l'idée, c'est que en fait, ça devienne un peu un lieu repère, un lieu de travail, c'est-à-dire que ce sera un lieu pour les chercheurs, pour les étudiants qui viendraient développer leurs connaissances ici, mais aussi que ce soit un lieu ouvert à tous et qu'on puisse accueillir des personnes qui viendraient visiter ponctuellement le lieu.
C'est ça, c'est d'avoir un espace support d'expérimentation scientifique, technique. On l'a pas abordé jusqu'à maintenant, mais on a beaucoup parlé de la pépinière, mais il y avait aussi cette idée d'avoir une matériothèque, de réemploi des matériaux, de réflexion sur les structures bâties qui sont en place sur le rabot. Donc d'avoir tout ce travail très scientifique, pratique, technique, mais aussi que ce soit un lieu commun de la ville qui puisse être traversé, vécu par les habitants, par les visiteurs, parce qu'on est quand même la Bastille qui est juste à côté du Rabot et un des sites les plus touristiques de l'Isère. Donc c'est vraiment de venir créer ce point de rencontre entre les différents usagers actuels et à venir du site.
À la sortie de votre diplôme, vous n'avez pas chômé, en fait. Tout de suite, vous vous êtes inscrit sur Europe 1 et vous avez trouvé du boulot.
Je crois qu'il y avait un vrai besoin. Enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, c'était très important pour moi de développer, en fait, un travail autre que celui que j'avais à l'agence. Et surtout, c'était une période où on était encore sous couvre-feu, que notre vie était vraiment rythmée par le travail. Moi, j'ai eu vraiment besoin de me retrouver avec mes amis et qu'on travaille ensemble, en fait. Qu'on construise des choses à côté et qu'on rêve un petit peu. Parce que c'est vrai, quand on sort de l'école et qu'on arrive directement dans les agences, ça dépend de là où on arrive. Mais parfois, les réalités sont assez coriaces, enfin, avec des travaux parfois qui peuvent être super ingrats, et ce qui est normal, puisqu'on n'est pas forcément amené à travailler là-dessus en école. Mais donc pour moi, ça a vraiment été un des moments très très importants pour moi, parce que justement on se retrouvait, on était une équipe, et puis on essayait de rêver à des choses qui nous faisaient vraiment envie, quoi.
Ben, le rêve a pris puisque vous avez gagné. Alors, le fait d'avoir gagné, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui ? Vous allez pouvoir réaliser ce projet ou est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir le réaliser ? Parce que l'avantage de Repen, c'est que ça peut donner accès à une commande.
Bah, ce serait l'idéal. Aujourd'hui, on a eu l'occasion déjà de rencontrer la ville de Grenoble pour échanger déjà sur le travail qui a été fait du côté de notre équipe lauréate, mais aussi avec les deux autres équipes qui ont reçu des prix pour ce site du Rabot. Donc aujourd'hui, on est finalement 13 personnes ici du Repen à avoir porté une réflexion sur ce site. Donc nous nous sommes rencontrés, on a eu des premiers échanges. Et pour l'instant, l'idée, c'est d'intégrer en fait, c'est tout ce travail, toute cette réflexion du Rabot qui est effectuée pour Repen dans une démarche peut-être de résidence d'architecture qui pourrait se dérouler cette année, il me semble entre mai et juillet. Mais
ouais.
J'ai pas les dates en tête. Et la particularité, c'est qu'on avait envie dès le départ aussi de travailler avec donc, ces deux autres équipes et de travailler peut-être plus maintenant à 6, mais à 13 personnes, tout en venant s'inscrire aussi dans le cadre de Grenoble Capitale Verte Européenne 2022, qui est un petit peu une date importante pour la ville de Grenoble. Donc ça, c'est plutôt sur le temps court. Avec une réflexion apportée sur notamment de l'urbanisme transitoire. Donc toute cette phase qui va se dérouler entre le Rabot aujourd'hui habité par les étudiants du Crous et d'ici 2024 quand le Crous aura déménagé. Avoir une réflexion sur cette temporalité un petit peu de transitoire. Et ouais. Dans un deuxième temps, on espère peut-être aussi s'inscrire dans une commande sur du plus long terme. Donc ça, c'est encore en pleine réflexion, mais dans l'idée de travailler sur, d'accompagner la ville et de travailler avec elle sur peut-être l'idée d'un plan guide à l'échelle du site de la Bastille, donc un petit peu plus large.
D'accord. Du coup, vous avez tous du boulot. Et alors, comment ça se passe en agence ? Qu'est-ce que de jeunes paysagistes font dans une agence de paysage quand ils arrivent tout neufs ?
ça qui a été intéressant aussi pour nous, c'est qu'en travaillant à 6, on s'est rendu compte que notre travail de chacun était bien différent, qu'on a des échelles de projets très très différentes. Quelqu'un comme Maxime, par exemple, travaille plus à l'échelle du territoire, sur des espaces ruraux, plus qu'urbains. Moi, j'ai travaillé d'abord, en sortant de l'école, j'ai travaillé dans une première agence où j'ai travaillé surtout sur des concours avec des promoteurs immobiliers. Donc on a des approches très différentes et c'est ça qui fait aussi la richesse. Après, on est plusieurs à avoir changé d'agence aussi depuis le début. Donc on essaie de tendre le plus possible vers ce que l'on a vraiment envie de faire. Moi, je sais que je suis très attirée par l'espace public, par exemple. Donc, des espaces très urbains. Je pense que Alice, toi aussi, tu travailles beaucoup sur des espaces urbains. Mmh. Donc voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, malgré tout, nos projets de diplôme qu'on avait développés en dernière année sont quand même assez proches de ceux vers quoi longtemps, en fait. Moi, j'ai travaillé, par exemple, sur une ville moyenne, donc dans un contexte urbain et périurbain. Je pense que toi, Alice, c'est la même chose. Enfin, y a des similitudes, en tout cas.
Oui, on retrouve, de mon côté, j'ai travailler sur le territoire de Rungis, donc toute la problématique de l'évolution des zones d'activité, et notamment ici en contexte urbain. Ce contexte urbain, je le retrouve maintenant au quotidien dans mon travail à l'agence. Et aussi pour revenir sur, en tant que paysagiste, comment ça se passe. Mmh. Pour moi, ça a été aussi, et c'est toujours le cas, mais en fait, on se rend compte qu'on travaille constamment avec plein d'autres corps de métier. Mmh. Et que, notamment nous, à l'agence, où on développe aussi beaucoup de projets, même d'urbanisme, où finalement, on peut aussi réinterroger l'architecte mandataire. On se trouve des fois dans des positions où on est constamment en travail de complémentarité avec l'architecte ou avec l'urbaniste. Et beaucoup d'échanges très intéressants qui se font maintenant où on commence aussi à comprendre le vocabulaire de l'architecte et à l'inverse aussi, l'architecte commence à comprendre notre vocabulaire un peu plus spécifique de paysagiste.
Donc, vous n'êtes pas que des grattes, autrefois on appelait ça des grattes papier, parce qu'on était encore sur la planche et autres.
C'est ça.
Mais on vous sollicite quand même sur vos compétences. Mmh. Hein. Et en effet, vous apprenez la réalité du métier.
Mmh. Exactement.
Est-ce que vous observez une déminéralisation en espace urbain? Oui, globalement, sur les projets?
De mon côté, oui, je le ressens clairement. C'est même devenu aussi maintenant des objectifs presque chiffrés ou des prescriptions très précises, avec même des outils réglementaires qui demandent d'avoir tant de pourcentage de pleine terre, de venir déminéraliser au maximum, ou même si on reprend l'exemple de Grenoble, où on en vient à calculer le pourcentage de canopée aussi sur les projets urbains. Donc on sent une évolution là-dessus. Mm.
Donc le rôle du paysagiste, à nouveau, reprend de l'importance.
Exactement, oui.
Quels conseils donneriez-vous aux étudiants en paysage? Enfin, vous venez d'en sortir, mais quand même.
Je crois que le premier conseil, ce serait d'absolument continuer de travailler ensemble, en groupe, de travailler sur le collectif. Je crois que c'est ce dont on a tous besoin aujourd'hui, dans toutes les situations que j'ai vécues. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a toujours sauvée, c'est-à-dire surtout pas rester dans son coin et surtout continuer d'être tout le temps dans le dialogue avec les personnes qui nous entourent, s'entourer des personnes qui nous font réfléchir, qui nous mettent dans le doute, qui... sont dans la confrontation avec nous. Pour moi, ça, c'est la vraie richesse que j'ai eue à l'école. Et puis, surtout aussi, continuer de travailler de manière transversale, d'essayer d'aller chercher le savoir dans des domaines qu'on connaît encore peu. Je crois que ça, c'est important. Ouais.
Et puis aussi une petite précision sur la culture de la charrette. On en parlait un petit peu avant, mais... C'est important de rappeler aussi que il y a d'autres manières de faire et que ça peut être des moments collectifs, très intenses, très riches, mais il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup d'articles qui sortent en ce moment, on voit...
ça fait déjà un moment.
Oui, qui sont revenus récemment, en tout cas de mon côté, là-dessus. Je pense que c'est important de le rappeler maintenant. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de subi et je pense que ça peut faire... Ça peut faire des dégâts et ce serait dommage d'être dégoûté de tout ce domaine.
Alors, pour nos auditeurs profanes, la charrette, c'est travailler en flux tendu. On doit rendre un projet pour un concours et on travaille jour et nuit, parfois pendant plusieurs jours. Et c'est physiquement très éprouvant. Et c'est vrai que dans certaines agences, il y a une culture de la charrette. Et dans d'autres, c'est plus organisé.
J'ai bon espoir en réalité que ça change. Parce que vu effectivement le contexte, je crois qu'on est tous, enfin je l'espère, on est un peu plus sensibles à ces problématiques de bien vivre, d'y vivre un peu dignement, malgré qu'on soit tous passionnés par le travail qu'on fait. Je pense qu'il y a des façons de faire qui, effectivement...
Disons que moi, je pense qu'entre la charrette qu'on fait une fois dans l'année et qui, du coup, est un événement qui est très stimulant pour un projet très spécial, c'est on y va... c'est comme le sujet de diplôme, on part en charrette. Mais la charrette systématique, là, ça devient
C'est terrible.
Physiquement très difficile.
Ouais.
Mmh. Allez, il faut avoir plein d'espoir. Et justement, alors, question vaste... Comment vous imaginez l'avenir? Est-ce que, par rapport à l'avenir, vous avez des visions, des envies, des avis?
Moi, je sais que le métier de paysagiste, en tout cas, m'a permis... J'ai toujours été très, très angoissée, en fait, par rapport aux problématiques environnementales et aux différents conflits. En ce moment, c'est tout particulièrement très, très proche de nous. Mais je sais qu'en étant dans le mouvement et en essayant d'agir pour faire que la vie soit un peu plus supportable, ça a toujours été pour moi la solution pour canaliser mon stress et mes angoisses par rapport à l'avenir. Après, concernant la situation actuelle, je pense que... Moi, je crois qu'on est une génération qui est très sensible, effectivement, aux nouvelles problématiques qui nous arrivent. Et je crois que la réponse, elle doit être politique aussi. Qu'il y a une nécessité, maintenant, je crois, à prendre nos responsabilités et à s'engager pleinement. Voilà.
Mais peut-être une politique moins clivante?
Certainement. En tout cas, je pense que le facteur politique, je pense qu'on l'a souvent négligé. Mais je crois qu'il est important d'y rester très sensible et de s'impliquer, quoi.
Oui, on le voit un petit peu au quotidien, si je refais le parallèle avec le métier de paysagiste, mais ce côté incertain, on l'a tous les jours, on travaille avec le vivant, on c'est pas du tout quelque chose de figé, c'est constamment en mouvement, et on fait avec ça. Et je pense que dans les politiques aussi, le fait de ne pas chercher à figer les choses, de laisser place à l'incertitude et à la prise de risque.
On est toujours en eau trouble, en fait. Donc, on sait qu'on travaille avec du vivant, qu'on travaille avec des personnes très différentes. C'est pour ça que je parle de politique. La politique, c'est à différentes échelles. Et c'est vrai que nous, on est amenés à parler avec différents acteurs qui sont souvent en confrontation et tout ça. Donc, on travaille véritablement avec le vivant, donc avec les incertitudes, donc avec des conflits. Donc,
vous avez été sensibilisée dans vos études à la dépollution ?
Alors oui, on a eu des cours d'écologie qui étaient assez pointus, qui nous ont, enfin c'est toujours la même chose en paysage. En fait, on a une culture en fait de différentes problématiques, de différents enjeux. Et donc, comme on est des généralistes, on entrevoit un peu les problématiques. Et la question de la dépollution a été très très importante dans notre cursus, effectivement, avec des processus qui peuvent être du travail sur la dépollution des plantes, donc avec des
plantes phytoremédiatrices.
Oui, voilà, tout à fait. Donc oui, ça c'est, et puis c'est une problématique très importante en milieu urbain, donc il y a effectivement, mais ce sont des questions qui sont en plein développement et qui seront des solutions d'avenir certainement.
Oui. Donc en fait, il y a beaucoup de boulot qui s'annonce.
Oui. Il y a du travail.
Et un sacré boulot.
C'est ça.
un mot de la fin. Marguerite, vous allez retourner en province ? Pas tout de suite.
Ce sont des questions tout à fait incertaines aussi, avec lesquelles j'essaie de travailler au quotidien. Mais c'est vrai que Paris, c'est pas forcément l'objectif de rester là toujours. Mais
oui, pour l'instant, vous avez du
pour
travail.
Pour le moment, oui, c'est ça.
Et vous ? Alice.
Oui, on en parle beaucoup quand même avec Marguerite, mais on est très contente d'être à Paris. Ça nous fait quand même un tremplin.
Ouais.
Et on verra après.
Ouais. Puis je crois qu'on avait besoin d'une émulation aussi, d'être avec du monde.
Oui, c'est ça.
D'être avec la foule, de faire la fête. Après les 2 ans qu'on a passés, je crois que c'était important. Après, on verra quels seront les...
En gardant l'optimisme.
Oui, exactement. On va essayer.
Vous allez voir, je suis sûre que ça va être formidable. Chers auditeurs, ravis d'avoir partagé avec vous cet épisode de jeunes paysagistes qui commencent dans leur vie professionnelle. Merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas le numéro en anglais mercredi et prenez soin de vous. Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.